Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, si vous voulez des bonnes nouvelles, si vous voulez des signes qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, si vous voulez une preuve que vraiment on s'en va vers un retour à la normalité, il peut pas y avoir de signe plus clair que les choses reviennent comme avant, que de savoir que Céline Dion revient à Las Vegas. C'est un spectacle qui va commencer en novembre de cette année. Ça devait être fin 2022. Ben non, novembre 2021. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de chanter. Ben voyons donc!
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si vous êtes inquiet pour la santé mentale des adolescents, vous allez capoter. Je pense que c'est le mot en lisant cette lettre ouverte écrite par 500 psychologues. Une lettre ouverte « Faites la différence » publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Des psychologues donc qui demandent au gouvernement de prendre tous les moyens pour régler la pénurie de psychologues parce que la situation de la santé mentale des adolescents est extrêmement inquiétante. On va en parler avec Dr. Karine Gauthier, elle est psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Dr. Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Dr. Gauthier, j'ai lu votre lettre. Je suis mère d'un adolescent de 13 ans et j'ai capoté, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, parce que ce dont vous nous parlez, c'est rien de moins qu'une épidémie de problèmes de santé mentale chez les adolescents.
Oui, on voit vraiment une augmentation des problématiques là, qu'on parle de symptômes dépressifs importants, avec une augmentation au niveau des hospitalisations pour des tentatives de suicide. On parle d'anorexie aussi, de troubles anxieux, mais qui mènent à des visites à l'urgence et à des hospitalisations là. On parle de 40% environ des lits dans les hôpitaux pédiatriques qui sont présentement dans le fond comblé avec des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale très importantes puisqu'ils doivent être hospitalisés là. On s'entend que c'est ça veut dire que c'est rendu très très sévère, puis ça montre juste comme d'autres l'ont dit, juste la pointe de l'iceberg là, de toutes les autres,
la partie visible.
Qui vont pas à l'urgence puis,
pardon. J'ai dit la partie visible de l'iceberg, parce que si ça se rend, s'ils se rendent jusque dans le système de santé, là, s'ils sont hospitalisés, c'est parce que la situation est particulièrement grave, mais il y a tous ces invisibles qui souffrent tout autant, c'est juste qu'on les voit moins parce qu'ils atterrissent pas dans le système de santé.
Oui, exactement. Donc, c'est ce dont je parle un peu dans la lettre, dans le sens que on voit auprès des jeunes qui essayent d'aider d'autres jeunes qui n'ont pas accès à des services, justement, là, ceux qui sont invisibles, on les voit un peu indirectement avec les psychologues qui suivent des adolescents, tu sais, qui nous parlent de leurs amis, là, finalement, là, qui essayent d'aider là, ce qui est impossible pour eux de faire là, quand on parle de problèmes de santé mentale importants. On a besoin de soins spécialisés et de psychologues pour aider.
Est-ce que tout ça est relié à la pandémie ou ce sont des problématiques qui dataient d'avant? Dans quel pourcentage ça a été augmenté ou aggravé par la pandémie?
Bien, là, dans les statistiques, c'est ça qui sont sortis, là, il y en a diverses, là, mais on parle, tu sais, pour les hospitalisations, ça l'a plus que doublé. Au niveau, ça concorde avec des études aussi, là, par rapport à l'augmentation des problématiques de santé mentale, c'est au moins le double qu'on parle présentement, là, si on regarde plusieurs variables ou même plus, là, les troubles alimentaires, là, on parle de 4 fois plus. Donc il y a vraiment une augmentation importante.
Alors, ce que vous nous décrivez dans cette lettre, là, qui vraiment donne froid dans le dos, c'est ça, c'est des jeunes qui, dont, dans certains cas, font des tentatives de suicide. Est-ce que on a des chiffres sur des cas réels de suicide?
Je crois pas. Je pense que les chiffres qui sont sortis, c'est par rapport aux tentatives de suicide. En tout cas, à ma connaissance, là, je peux pas dire ça d'une façon certaine, mais à ma connaissance, c'est par rapport aux tentatives de suicide. J'ai pas les chiffres par rapport vraiment au suicide, là. Mais c'est sûr que les tentatives, tu sais, ça va pas dans la bonne direction parce que peut mener à un suicide, là, mais j'ai pas les chiffres par rapport aux tentatives de suicide. Puis pour revenir à votre question précédente, dans le fond, on voit une augmentation, mais déjà il y en avait vraiment beaucoup, hein, de difficultés,
d'anxiété,
difficultés d'accès, d'anxiété, de dépression avant la pandémie, et des difficultés d'accès vraiment vraiment importantes, là, certaines écoles qui ont même pas de psychologue, ou sinon c'est 1 par 2 000 élèves, 3 000 élèves, par exemple, si on parle de dans le système scolaire, où c'est vraiment une belle porte d'entrée, là, pour pouvoir intervenir auprès des jeunes rapidement, là, finalement, là.
Et ce dont vous parlez également dans cette lettre-là, c'est que, il y a cette pénurie, et ce qui fait en sorte aussi que dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de milieux, alors qu'on devrait faire appel à un psychologue, on fait après appel à d'autres spécialistes, mais ces spécialistes-là n'ont pas les connaissances fines pour pouvoir justement traiter un problème de santé mentale. Donc, c'est comme si on ne reconnaissait pas la spécificité, et le professionnalisme et les compétences requises pour qu'on fasse appel à un psychologue.
Oui, c'est exactement ce qu'on remarque malheureusement, là, de plus en plus de nos membres qui nous écrivent pour nous dire, OK, il y avait un poste de psychologue, mais il est resté vacant à cause qu'on a des problèmes vraiment graves d'attraction, de rétention aussi. Donc, les postes restent vacants, donc les gestionnaires, malheureusement, décident de les transformer comme si c'était du pareil au même, mais ce n'est pas la même chose. Un psychoéducateur, un psychologue, c'est pas la même chose. Un travailleur social, un psychologue, c'est pas la même chose. Puis pas dans le sens qu'on est meilleur qu'eux, c'est juste que c'est pas pareil. Moi, je travaille dans des équipes multidisciplinaires où il y a une travailleuse sociale qui est impliquée, une psychoéducatrice et moi-même psychologue avec la même personne, parce que nos rôles sont différents dans des cas vraiment, tu sais, sévères. Donc, c'est vraiment des rôles distincts, mais on sent pas que cette différence-là, ben c'est pas juste pas le sentir, c'est des faits, là. Je veux dire, il y a les postes qui sont remplacés par d'autres professionnels, donc ça, on trouve ça très, très inquiétant. Au lieu d'adresser le problème à la source puis de dire, OK, il manque de psychologues, c'est que, OK, bon, on va engager un autre professionnel. OK, bon, on va engager un autre professionnel. Donc, on voit vraiment cette tendance-là depuis plusieurs années, là, quand même, qu'on voit les postes qui sont remplacés à cause des difficultés de recrutement, finalement, de cette main-d'œuvre. Ouais.
Vous nous encouragez dans cette lettre, Dr Gauthier, à écrire à participer à une pétition. C'est quoi cette pétition-là et pourquoi on devrait la signer?
Bien, dans le fond, la pétition demande au gouvernement de régler la problématique, là, de pénurie de psychologues dans le réseau public, de vraiment l'adresser, de prendre tous les moyens possibles pour faire en sorte que les psychologues reviennent dans le réseau public. Parce qu'on sait que, dans le fond, pour combler les besoins à main-d'œuvre, on devrait recruter 100% des finissants au doctorat, alors que présentement, c'est 25%. Donc, il y a vraiment une problématique. Puis, on le voit d'année en année, le nombre de psychologues diminue dans le réseau public. Donc, c'est pour ça la pétition. C'est pour dire que si vous êtes d'accord de dire on veut des psychologues, on veut qu'il y ait des actions qui soient faites pour qu'on ait accès à des psychologues dans les écoles, dans les CLSC, dans les hôpitaux, dans les centres de jeunesse, la DPJ, dans les centres de réadaptation, dans le fond, dans toutes les sphères du réseau public pour que cette main-d'œuvre-là reste, parce qu'on craint vraiment une extinction de la profession dans le réseau public, que ça devienne comme un luxe pour les gens qui peuvent aller consulter au privé, mais que finalement, dans le réseau, on voit une diminution vraiment importante de cette main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça la pétition. C'est à l'adresse www.coalitionpsy.org /pétition, si ça vous intéresse d'aller la signer. Je pense que ça donnera un beau message aux décideurs de voir qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'accès aux psychologues.
Et aussi, ben, dans votre lettre, un argument qui est assez intéressant, c'est l'idée de d'économiser des sous. C'est-à-dire que si on investit dans la santé mentale, ça va avoir des répercussions. Alors, expliquez-nous votre schéma de pensée, le calcul que vous faites pour en arriver à dire que au final, on va économiser des sous.
Oui, bien c'est dans le fond, ça vient de recherches là qui ont démontré qu'il y avait vraiment des diminutions en termes de coûts d'hospitalisation, de coûts en termes d'arrêt de travail aussi. Donc vraiment, dans le fond, on sauverait vraiment beaucoup d'argent. Là, on parle de d'environ 22% des coûts d'hospitalisation qui seraient diminués. Puis j'ai fait un calcul juste avant de vous parler là. On parle d'une hospitalisation, c'est en moyenne 6 000 $, ok. Puis là, j'ai calculé, c'est presque 100 séances de psychothérapie pour ce jeune-là qu'on aurait pu lui donner. Mais là, on parle quand il est hospitalisé. C'est pas réglé son problème. L'hospitalisation, c'est juste pour le maintenir en vie, là, on s'entend. Là. C'est un jeune qui est très suicidaire ou c'est un jeune qui a de l'anorexie dont les signes vitaux, il est à risque, là. Il peut faire un arrêt cardiaque, puis tout ça, c'est ces genres de cas qui sont ces genres de situations-là qui se présentent là, dans les hôpitaux pour qu'un médecin décide d'hospitaliser. Mais si on était intervenu plus tôt, ben là, on s'entend que c'est rare là, que ça prend autant de séances, mais bon, juste pour faire le calcul, si on intervenait plus tôt, on aurait vraiment vraiment moins de coûts associés finalement, parce qu'après l'hospitalisation, il y a besoin, le jeune a besoin
bien
de soins.
Sûr.
Là. Fait qu'on n'économise pas en termes de soins. Donc, les études, c'est ça, démontrent, là, 22%, c'est quand même un chiffre énorme là, en termes de coûts. Puis il y a tous les coûts associés aux médicaments aussi, le psychotrope, les antidépresseurs, les anxiolytiques qui sont de plus en plus prescrits aux jeunes, aux adolescents. On voit aussi une grande augmentation. Puis ça, il y a des coûts pour le Québec qui sont vraiment importants. Donc, ça serait une économie aussi en termes de remboursement là, par la RAMQ des médicaments pour les symptômes dépressifs ou d'anxiété, finalement. On parle d'économie en termes d'appel à la police. On a vu là que les policiers disaient qu'il y avait de plus en plus les ambulanciers aussi d'appels par rapport à des problématiques qui sont reliées à la santé mentale. Donc ça engendre des coûts, évidemment, aussi. En plus de la détresse, souvent, chez les intervenants là, qui se disent pas très équipés ou, en tout cas, qui se sentent un peu au dépourvu, puis les visites médicales. Les pédiatres sont sortis aussi cette semaine pour dire qu'ils sont pas équipés nécessairement pour traiter toutes les troubles de santé mentale. Là, c'est 50% de leurs visites qu'ils rencontrent dans leur bureau présentement. Donc, ça aussi, ça a des coûts faramineux sans que la personne ait nécessairement les services dont elle a besoin, on s'entend, là. Donc ça serait une économie vraiment importante pour le Québec. Donc, quand on dit avec la pandémie, on doit serrer la ceinture, mais c'est une façon de le faire.
Absolument.
Au lieu que les gens se présentent à
c'est un investissement.
C'est un investissement, vraiment. Il faut le voir comme un investissement. Donc, pour ça qu'on a terminé l'alerte avec moins de souffrance et moins de dépenses. Donc,
C'est toujours le bon vieux principe d'investir en amont plutôt qu'en aval et d'investir dans la prévention plutôt que dans le soin. Là, on a l'impression qu'on fonctionne très souvent comme ça au Québec, en tout cas en termes de santé. Pas juste la santé mentale, mais dans d'autres domaines de la santé aussi. Il y a tellement de choses qui pourraient être évitées, tellement de problématiques qui pourraient être contrôler ou apaiser avec une bonne prévention et on le fait pas, puis on attend que le bobo, que l'abcès éclate et là, on se retrouve avec des hospitalisations. Vous nous avez parlé, Dr Gauthier, de différentes manifestations de cette détresse. Bon, évidemment, la plus extrême étant la tentative de suicide. Vous nous avez parlé également de troubles anorexiques, mais j'imagine qu'il y a tout un éventail aille. Donc, s'il y a des parents d'adolescents qui nous écoutent, c'est quoi les signes qu'on devrait surveiller chez nos ados?
Mais c'est ça, c'est des changements dans leur comportement, de l'isolation, qui vont comme plus se retirer, ou ça peut être des excès le plus de colère ou de l'irritabilité, même de la violence des fois, parce que les symptômes dépressifs là, c'est pas juste on manque de motivation, on reste couché dans notre lit, là, ça peut, tu sais, il peut avoir là chez certains adolescents là plus d'aller vers aussi des solutions là comme l'automédication avec de l'alcool ou des drogues là, tu sais, on l'a vu aussi, il y a une augmentation, j'en ai pas parlé, mais il y a une augmentation aussi des problèmes de dépendance chez les adolescents là. Donc les gens se trouvent finalement
des exutoires.
Tu peux te trouver des solutions eux-mêmes qui sont pas idéales du tout. Donc c'est ça souvent qu'on remet. Le sommeil, tu sais, des perturbations au niveau du sommeil. Souvent quand la personne commence à, tu sais, soit avoir plus de symptômes, des symptômes d'anxiété importants ou de dépression, soit que la personne peut dormir plus ou dormir moins. Donc des changements de cet ordre-là. Que ça serait important de parler avec le médecin ou de contacter l'accueil psychosocial du CLSC. Puis il y a toujours les lignes d'appel aussi s'il y a des inquiétudes.
Absolument, c'est toujours important
au suicide. Et l'urgence, évidemment, là, faut y aller quand on s'inquiète, quand les parents s'inquiètent par rapport à la sécurité de leur enfant. Faut aller à l'urgence aussi.
Bon, ben écoutez, on va aller signer cette pétition, on va garder un œil sur nos ados et on va continuer d'être extrêmement vigilants, mais c'est une réflexion en tout cas qui s'impose, c'est sûr, en cette période aussi trouble. En même temps, les nouvelles sont bonnes, docteur Gauthier. Premier ministre François Legault nous l'a dit hier, là, la vaccination, ça va quand même régler beaucoup de problèmes. On envisage un retour à la normale et une socialisation aussi pour les ados, pour les jeunes, qui va quand même être très salutaire. Mais il faut continuer d'être vigilant. Docteur Karine Gauthier, donc vous signez cette lettre qui est co-signée par 500 psychologues dans la section Faites la différence, donc pour demander plus de psychologues pour qu'on prenne mieux soin de notre santé mentale. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Grosse nouvelle qui vient de sortir, on apprend que Céline Dion va remonter sur scène à Las Vegas en novembre, mais c'est pas de ça dont on va parler avec Jean-François. Lisez la grosse nouvelle de la semaine, ça va être demain, le ministre Simon Jolin-Barrette qui va déposer le plan du gouvernement Legault pour renforcer la loi 101. On a déjà quand même des bribes d'informations, mais moi j'étais intéressée à savoir ce que Jean-François Lisez, en tant qu'ex-chef du Parti québécois, en pensait. En fait, quelles sont ses attentes? Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Aurais-tu préféré qu'on parle de Céline Dion qui remonte sur scène à Vegas?
Bon, ben d'abord, je dois dire que j'étais présent à son dernier spectacle lorsqu'elle a fait sa longue série, là, au Caesars Palace. J'avais été envoyé par une radio pour aller faire un reportage sur son dernier spectacle et j'avais appris qu'elle avait trouvé ça très, très difficile depuis le début parce que la scène était un petit peu penchée vers l'avant et donc ça lui avait donné des gros problèmes de tendons pendant tout ce temps-là. Elle avait souffert le martyr et elle était un peu contente que ça soit terminé. Alors moi, je pensais pas ça. Moi, je pensais que c'était un genre de lune de miel extraordinaire, de rêve de princesse. Et puis là, c'est fini. Le plancher penche par en avant. Là, ils ont remis un plancher normal pour... pour les pieds de Céline pour la suite.
Bon.
Ça, c'est une information importante. Et puis, c'est très bon pour l'économie américaine. La reprise américaine est certaine.
Ben écoute, c'est fou quand même.
Dans l'économie de Las Vegas, ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle et on parlera du français un petit peu plus tard. Parlons de l'anglais. C'est fou comment aux États-Unis tout ressemble vraiment retourner sur à la normale. On apprenait la semaine dernière que Broadway, les spectacles allaient pouvoir reprendre le 15 septembre. On regarde un peu les États-Unis avec des petits coulets de bave sur le bord de nos lèvres quand même, en se disant tabarouette, ça va vite chez eux là.
Oui, ben, c'est parce qu'ils ont eu, ils fabriquent eux-mêmes une partie de leur vaccin. Ça, c'est la clé, là. C'est quand tu les fabriques chez toi, c'est la même chose pour la Grande-Bretagne. AstraZeneca, Oxford,
Oxford, oui, tout à fait.
Donc, quand tu les fabriques chez toi, tu te les donnes d'abord à toi. Et il y a eu une accélération très forte de la production, une loi nationale qui est utilisé pour mobiliser les manufacturiers en temps de guerre a été utilisé pour le vaccin. Vraiment, c'était une énorme réussite logistique de faire en sorte que la moitié des Américains assez rapidement aient leur première dose et eux, ils vont assez rapidement pour la seconde dose aussi. Évidemment, il y a juste à peu près 60% des Américains qui sont en ce moment vaccinés et on voit une hésitation très forte pour essayer d'arriver au seuil de 75-80%. On ne sait pas s'ils vont y arriver. Nous, on va probablement y arriver, notamment au Québec, parce que de semaine en semaine, la proportion de Québécois qui veulent se faire vacciner augmente. Et maintenant, on est rendu, je pense, à 84% des Québécois qui souhaitent se faire vacciner ou qui l'ont déjà été. Les Américains sont très loin de ça. Donc, il va y avoir un problème qui va se poser, là. C'est pour ça qu'ils offrent de la bière, qu'ils offrent
c'est drôle ça. A beer for a shot.
Oui, a shot for a shot.
Et puis a shot for a shot, c'est ça, oui.
Oui, oui. Alors, on va voir. Nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ça, mais on va peut-être finir par y arriver. Mais effectivement, c'est le retour de Céline, c'est un signe du retour à la normalité. C'est quand même extraordinaire que même une publicité très populaire en ce moment d'une gomme à mâcher extra.
Ben oui, elle est géniale. C'est une chanson de Céline.
C'est une chanson de Céline.
Oui, c'est all coming back to me now.
Exact. Et puis donc,
elle
fait partie de la culture, elle fait partie de l'histoire de la pandémie ou de la sortie de la pandémie. C'est quand on a l'empreinte québécoise grâce à Céline en particulier.
C'est fou.
C'est quand même quelque chose, c'est.
T'as tout à fait raison. Non, mais cette publicité-là est absolument hallucinante. Je suis partie à pleurer, moi, en écoutant cette publicité-là, parce que les gens, bon, à rire d'abord, puis à pleurer après, des gens qui, donc, se dépêchent de sortir de chez eux pour aller frencher des inconnus, mais d'abord, en prenant une petite gomme à mâcher. Et non, mais avec la toune de Céline, c'est vraiment génial. Donc, t'as tout à fait raison, c'est tout à fait le symbole d'un certain retour à la normale. Donc, revenons sur le plancher des vaches ici au Québec. Demain, Simon Jolin-Barrette va nous dire ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des dents dans sa loi, sur la loi 101 ou pas, dans son projet sur la loi 101? Écoute, il a déjà quand même annoncé la semaine dernière que à partir de maintenant, le gouvernement va communiquer uniquement en français avec les entreprises, mais ça fait 20 ans que le gouvernement est censé faire ça, fait que on fait juste rattraper notre retard.
Oui, ben c'est comme un menu là. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer le français au Québec. Il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont principales. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il va faire le secondaire? Parce qu'on peut faire 10 mesures intéressantes à impact mineur qui ne changeront pas la tendance, ou on peut faire 3 mesures majeures qui vont infléchir la tendance. Et moi, mes attentes malheureuses, c'est-à-dire mon inquiétude, c'est qu'ils vont faire beaucoup de petites mesures sympathiques, mais à impact mineur, et pas les mesures essentielles à impact majeur.
Et je te vois venir. L'immigration, on en a parlé régulièrement. Quels seraient les deux autres?
Ben, alors, donc, ça, c'est la première. La deuxième, c'est sur l'éducation supérieure, s'assurer que dans les collèges anglophones, dans les universités anglophones, les finissants aient une réelle connaissance du français, parce que puisqu'ils ne l'ont pas, ils participent à l'anglicisation des milieux de travail à Montréal. C'est extrêmement important. La question des étudiants étrangers aussi, qui sont des anglophones, qui apprennent pas le français. Alors, toute cette question des études supérieures anglophones. Alors, ça ne suffira pas, ce qui semble vouloir nous annoncer, j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais ce qui semble vouloir nous annoncer, c'est un contingentement de l'éducation anglophone. Ça ne suffit pas, faut pas les contingenter. On peut bien les contingenter, c'est mieux que rien, mais il faut qu'ils deviennent d'excellents francophones en langue seconde. Et ça, je suis pas sûr qu'ils vont faire ça.
L'immigration, et ta troisième mesure?
La troisième, c'est dans la langue de travail. Est-ce que dans la langue de travail, ils vont faire en sorte que non seulement dans les entreprises de 10 ou 25 employés et plus, la loi 101 s'applique, mais qu'il y ait un réel resserrement parce que la loi 101 est mal appliquée dans les autres aussi. On a eu du relâchement important. Il y a eu une époque après Lorrain où il y avait des comités de francisation qui fonctionnaient, qui étaient très vigilants. Et depuis, ça a été laissé là, en jachère et en fait, les entreprises font un peu ce qu'elles veulent. Donc, est-ce qu'il va y avoir un réel resserrement de ce côté-là? C'est les trois. Ensuite, une fois qu'on a fait ces trois-là, on peut en ajouter, effectivement, parler en français seulement aux entreprises. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que ça va avoir un impact sur le traducteur de l'entreprise. Hein? Il y a trois personnes qui vont traduire les formulaires. C'est bien. On peut avoir là le débat sur les villes anglophones.
Oui, bon, les villes officiellement bilingues, écoute, je sais pas si t'as vu passer ça, le maire de Côte-Saint-Luc qui dit, bon, ben moi, la majorité de ma population est bilingue, donc c'est correct si mes conseils municipaux se passent en anglais. C'est quand même assez insultant de se faire répondre ça en 2021. Bon, de toute façon, c'est pas grave, vous parlez l'anglais, fait que c'est pas grave, moi, m'aller faire majoritairement en anglais, mes conseils. Tabarnouche.
Oui, sauf que le statut bilingue de la ville n'empêche pas des gens de s'exprimer en anglais. C'est-à-dire, si on enlève le statut bilingue de la ville, ça n'empêche pas les gens de s'exprimer en anglais au conseil municipal. Même chose, l'Assemblée nationale, n'importe qui peut se lever et parler anglais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas interdit. Alors, cette mesure-là, alors c'est vrai que Camille Lorrain avait dit en 77, si vous avez plus de 50% de la population de votre ville qui a la langue maternelle anglaise, vous avez un statut bilingue. Et depuis, il y a plusieurs de ces villes où il y a eu un mouvement de population important. Il y en a une, je pense, qui reste 4% d'anglophones. Alors, il n'y a jamais une seule ville au Québec qui a dit, « Ah, savez-vous, retirez-nous notre statut bilingue. » C'est pas arrivé, il n'y avait pas de mécanisme dans la loi. Cependant, si on retire le statut bilingue, c'est une bataille identitaire forte qui va susciter une réaction forte, mais qui a presque pas d'impact dans le réel. Hein? Presque pas d'impact dans le réel parce que les villes non bilingues, comme la ville de Montréal, offrent tous ces services sur demande en anglais. Traduit
mais non,
en anglais. Alors, quelle différence avec le statut bilingue? Il est minime.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté symbolique? C'est-à-dire que... C'est le symbole, c'est la force du symbole. Par contre, à l'inverse, si en effet le gouvernement dit bon, on va se baser sur ce qui est la loi, donc c'est 50%, on va regarder les chiffres. Si vous n'avez pas une masse critique qui vous permet de l'avoir ce statut-là, on va vous l'enlever. Regarde bien ça, ça va se rendre jusqu'à l'ONU. Ils vont aller pleurnicher en disant c'est effrayant. Puis dans les journaux anglais, ça va être le gouvernement intolérant de François Legault qui s'attaque de façon indue à la minorité anglophone. Donc, ce qui aurait pu être valeur de symbole va se retourner contre le gouvernement, selon moi.
Lorsqu'on fait une réforme, il faut savoir, est-ce qu'on veut avoir l'air d'avoir raison ou est-ce qu'on veut réussir la réforme? Et dans le cas, moi j'ai eu ce débat-là plusieurs fois, dans le cas des villes bilingues, dans un monde idéal, effectivement, il faudrait s'attaquer à ça. Mais si tu veux faire progresser le français, c'est la dernière mesure de ta liste et c'est celle qui politiquement coûte le plus cher et rapporte linguistiquement le moins.
Coûte le plus cher et rapporte le moins linguistiquement. Je vais garder ta formule pour résumer notre conversation. Pour s'assurer que ça corresponde bien. Oui.
J'ai bien l'impression qu'ils vont le faire et que ça va faire un énorme fracas, mais que, donc, on ne parlera pas, enfin, moi, je vais en parler, du fait qu'ils ne s'attaquent pas au vrai problème qui est celui de l'immigration. Alors, bon, c'est un choix. Et ça va donner l'impression qu'ils font quelque chose d'important.
Et dans le journal de ce matin, dans la section « Faites la différence », il y a Frédéric Bastien, l'historien qu'on connaît bien, qui s'était présenté d'ailleurs à la chefferie du PQ, mais il n'a pas gagné, évidemment, et qui en fait, dans les grandes lignes, dit exactement ce que toi tu dis depuis le début sur l'immigration, avec des chiffres à l'appui, évidemment, en disant c'est comme, on a l'impression que le gouvernement ouvre deux robinets en même temps. Donc, il aura beau, de la main droite, ouvrir le robinet d'un certain nombre de mesures, si de la main gauche, il ne ferme pas le robinet d'une immigration massivement non francophone, son bain sera jamais chaud, là. Son bain va toujours rester tiède, ou au pire, son bain va être froid.
C'est ça. C'est exactement ça. Mais François Legault n'a jamais voulu parler d'immigration linguistique, sauf lorsqu'il l'avait dit, il avait dit à la CBC à l'époque, avant qu'il soit au pouvoir, on insiste trop sur la demande du français dans des critères de sélection.
Il
s'est jamais dit. Mais ensuite, il a dit, on va les faire venir, c'est pas grave, ils ne parlent pas français, mais 3 ans après leur arrivée, on va leur faire passer un test de français et de valeur. Et s'ils le passent pas, on leur donnera pas leur certificat de sélection, donc.
Mais non, c'était pire. Ça. Puis écoute, t'imagines l'image de gens raccompagnés à l'aéroport, sous protection policière, de évincés de chez eux, des enfants retirés de l'école, des gens forcés à quitter la province parce qu'ils ont pas réussi à passer un test de valeur ou un test de français. A-t-il pu 2 secondes penser que c'était viable politiquement?
Moi, c'est pendant la campagne électorale de 2018, une de mes lignes les plus applaudies dans mes discours, c'était la seule personne qui devrait être expulsée du Québec, c'est la personne qui a inventé cette proposition-là.
Pourquoi les gens disent que t'as pas le sens de l'humour? T'es super drôle, Jean-François.
Je te remercie. Mais
c'est une sacrée bonne ligne. C'est toi qui l'avais écrite ou c'est un de tes conseillers politiques?
Ah non, ça m'est venu comme ça sur scène.
Bon, bravo.
Merci. Mais en tout cas, ce qui fait qu'il y avait quand même une promesse à l'élection de 2014, une promesse tordue de faire quelque chose de sérieux sur le français des immigrants. Et cette promesse-là est non tenue. Alors comment est-ce que, on va voir demain, est-ce qu'il va probablement y avoir encore une augmentation du budget de francisation des immigrants déjà arrivés? Peu importe combien tu mets d'argent là-dessus, ça fait 50 ans que c'est un échec. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à Montréal et que tu te rends compte que le français est optionnel pour vivre ou pour gagner ta vie, pourquoi est-ce que tu t'enquiquinerais à passer des centaines d'heures à apprendre une langue qui est optionnelle? C'est ça le problème. Tous les envoyer en Gaspésie, là, ça va, en Gaspésie, le français n'est pas optionnel, il est indispensable. Mais c'est peut-être une proposition. Tous les immigrants passeront d'abord 2 ans en Gaspésie avant d'aller ailleurs sur le territoire. Ça marcherait.
Mais ça se fera pas. Et ça a été mis en lumière quand même. On l'a vu là avec cette campagne de vaccination qui peine à décoller dans certains quartiers. Et une des raisons pour laquelle ça peine à décoller, c'est que on a de la difficulté à rejoindre les gens pour les informer qu'il y a cette campagne de vaccination qui a lieu au Québec, parce qu'il y a des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais.
Oui, je comprends ça, mais je me suis dit quand même, on sait qu'il y a des bulles ethniques ou d'immigration qui se créent, puis il y a des gens qui vivent dans leur pays d'origine parce qu'ils écoutent avec les satellites et Internet, ils écoutent la radio du Pakistan ou la télé de la Russie, etc. Mais dans tous ces pays-là, ils vaccinent ici. C'est quand même la principale nouvelle partout dans le monde. Ouais, comment ouais. tu peux passer à côté du fait que le monde entier est en train de se faire vacciner?
Ça, c'est je ne sais pas. Oui, ça c'est mais c'est une excellente question. Jean-François, toujours un plaisir de te parler. On va se retrouver vendredi, donc au lendemain de oui. cette oui, annonce de Simon Jolin Barrette. Donc, on va pouvoir en reparler et tu vas pouvoir tiens, je te lance un défi, tu me donneras ton évaluation sur 100, quelle note tu donnes à l'élève élève Simon Jolin Barrette. Merci beaucoup Jean-François.
On va dire qu'on va le noter sur l'échelle Camille Lorrain.
Ah, quelle bonne idée. Une échelle de l'homme blanc qui a même pas le droit à un petit bout de trottoir. Il faut se battre pour qu'il y ait un petit bout de trottoir à Outremont. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, au revoir.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Le film Menteur, ce film d'Émile Gaudreau mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, était un des films les plus populaires, un des films québécois les plus populaires des dernières années. Ben, il va être adapté en France. Puis Dieu sait qu'ils connaissent ça, eux, les menteurs en France. On va en parler avec le réalisateur et scénariste Émile Gaudreau. Bonjour, Émile.
Bonjour, ça va bien?
Ben, moi, ça va très bien. Et toi, commençons donc par parler de toi. Comment vas-tu, Émile?
Ben ça va bien, ça va bien. Je suis en écriture depuis septembre 2019, donc je suis là-dedans dans mes nouveaux scénarios.
Dans tes nouveaux scénarios, est-ce qu'on sait de quoi ça parle? Est-ce que tu peux nous donner une idée? Est-ce que t'en parles pas?
Ben c'est vrai que c'est délicat parce qu'on est toujours en train de les développer, puis on sait pas lequel qui va être le plus près là, pour tourner le prochain. Mais en ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle Sans mots et qui raconte l'histoire de quatre verbomoteurs qui perdent l'usage des mots, autant la parole que l'écrit, et qui doivent... Donc, c'est un film à 75% sans parole, muet, donc c'est une aventure d'écriture. C'est assez passionnant, mais c'est aussi terrifiant, parce que c'est comme une histoire qui n'a jamais été racontée, puis d'une façon qui est étrange, c'est-à-dire, j'ai pas les dialogues, là. Oui. Donc, mais c'est assez intéressant. Donc
c'est un comique de situation. C'est un comique de situation.
C'est une comédie dramatique en même temps. C'est comme une fable. Ouais. C'est comme une fable moderne. Tu sais, ça dit qu'on. C'est comme si on avait gaspillé. C'est comme si l'humanité avait gaspillé ce don-là. Là. On avait trop dit de choses pour rien dire. Puis on avait oublié le sens des mots. Puis qu'on n'y avait plus accès soudainement. Donc on suit quatre personnages. Puis il y en a de plus en plus qui vivent ce drame-là. Donc,
c'est très drôle.
C'est un peu ça, cette histoire. Ben, c'est intéressant.
Oui, mais c'est un potentiel comique et un potentiel dramatique, les deux, oui, en effet, ça, en même exactement. Temps. Puis tu connais sûrement cette phrase dite par un grand sage, sûrement asiatique, parce que tous les grands sages sont toujours asiatiques. Il dit, il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il faut qu'on passe plus de temps à écouter qu'à parler.
Ah, c'est très bon. Je te connaissais pas.
Mais écoute, tu le prendras ça, tu mettras ça quelque part dans ton scénario, puis tu m'enverras un petit 10% par la poste.
Oh oui, un 10%, mais t'es gourmande.
Ben écoute, les bonnes idées, non, je te taquine. Écoute, Émile, je trouve ça charmant que tu nous racontes cette histoire-là, parce que dans le fond, dans ce scénario que t'écris, il y a une sorte d'intervention divine, donc ces gens-là qui sont des verbomoteurs, à un moment donné, se retrouvent privés de ça, et ce côté Deus Ex Machina, c'est un petit peu ça aussi qui arrive dans ton film Menteur. Exactement. Donc, ouais. C'est un peu le même arc dramatique.
De certaine façon, ouais, c'est un peu une réaction à Menteur, où il y avait beaucoup, beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de dialogues quand même. Puis c'est un peu une réaction à ça, où il me semble que j'ai envie de silence, j'ai envie de ne pas avoir de dialogue. Donc c'est vraiment comme, c'est à partir de cette envie-là que j'ai trouvé cette idée-là et que je l'ai articulée. Mais ouais. C'est vrai que c'est comme un peu le contraire.
Alors, parlons-en de ce fameux Menteur. Donc, un film que moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais écrit une chronique dans le journal où je racontais que j'étais allée voir ce film-là avec mon chum, ma belle-mère et mon fils. Et c'est le genre de film que tu peux aller voir, en effet, transgénération. Puis chacun veut rire à des moments différents de ce film-là. Donc, ce film est tombé dans l'œil des Français. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, ça se passe comment, Émile? T'as un appel, t'as un courriel où vous avez fait, vous, des démarches actives pour que le film soit adapté à l'étranger?
Ben, c'est-à-dire que quand le film est sorti au Québec, mais tu sais, maintenant, tous les pays ont accès aux chiffres de tous les pays. Donc, les Français, puis partout, voyaient que tout d'un coup, un film qui compétitionne avec les films américains sur un certain territoire, donc ils voyaient ce film-là qui s'appelait Menteur, et maintenant, ils ont accès aux bandes-annonces. Hein, donc, ils ont juste à taper Google Menteur, bandes-annonces, et donc, les gens de l'industrie du cinéma français ont vu la bande-annonce de ce film-là, ont vu les chiffres, et ça, Denise Robert et moi, ben, on s'est fait contacter par plein de compagnies, donc nous, on n'a fait aucune démarche, c'est eux qui nous ont contactés.
D'accord.
Puis c'est quand même agréable, je dois t'avouer, parce que une dizaine de compagnies qui se battaient entre eux, puis qui essayaient de nous convaincre, et nous, on les entendait, puis on se disant, on va choisir vraiment celle qui est la plus, qui semble le plus connaître notre projet, puis le plus passionné pour ce projet-là. Puis c'est les gens de Gaumont qui nous ont convaincus, là, en un appel, ils nous ont juste expliqué ce qu'ils aimaient dans le scénario. Puis moi, j'ai fait oui, d'accord, t'as tout compris, bravo, merci, on va y aller avec vous.
Donc, ça, c'est vraiment génial. Ça veut dire que tu te trouves vraiment dans la situation où t'es comme assis sur ton trône, t'es comme la princesse sur son trône, et là, t'as comme 10 prétendants qui viennent déposer à tes pieds.
Ouais, c'est très agréable. Ça fait du bien de ne pas avoir à convaincre les gens, tu sais.
Ouais, c'est peut-être trop hétéronormatif mon exemple. Alors t'es un prince et t'es sollicité par des princes qui veulent venir déposer à tes pieds des belles offres.
Comme,
hein, soyons.
The Bachelor là.
Oui, c'est ça.
Tu choisis tes prétendants.
Mais Tinder, un Tinder cinématographique.
Oui, exactement. Puis ça a été très vite d'ailleurs le film. Tu sais, le film français commence à tourner, il a commencé à tourner lundi cette semaine. Puis c'est moins de 2 ans après la sortie du film original, donc tu sais, ça s'est passé très vite tout ça. Puis Guillaume Colbock qui est à Gaumont, qui s'occupe du développement, a fait un très bon travail de trouver un réalisateur. Après ça, ben, ils ont travaillé très fort, je pense, et très rapidement quand même. Donc,
OK. Alors, je veux revenir un petit peu en arrière sur ce que tu viens de nous dire. Donc, tu nous dis que ce qui a attiré l'attention des Français, ce sont les chiffres. Quels sont-ils, ces chiffres? Au final, au total, Menteur a fait combien au box-office?
Ben, je pense que c'est à peu près un peu plus que 6 millions de dollars. Là. Donc, ça fait dire qu'il y a à peu près 600 000 personnes en été 2019 qui se sont déplacés au cinéma pour aller voir ce film-là en plein été, donc c'est quand même beaucoup de gens, c'est quand même beaucoup de monde qui vont voir un film québécois, donc ça, pour moi, ça, j'en suis fier là, de réussir à générer ce désir-là, parce que c'est de plus en plus difficile de convaincre les gens d'aller au cinéma, donc il faut trouver un film qui va générer une étincelle, là, une envie aux gens de se déplacer.
Dirais-tu que ce film-là, qui a eu un énorme succès populaire, n'a pas eu la reconnaissance du milieu, du métier, en termes de nomination dans les galas, en termes de critique? Est-ce que le milieu a encore un problème avec des films, un, populaires, et deux, des comédies?
Ben, c'est sûr que la franche comédie, là, c'est un comme le genre que je pratique, ça n'a jamais été très reconnu, mais nulle part. Hein. Tu sais, c'est vraiment comme un peu partout comme ça. Ça a toujours
c'est pas un phénomène uniquement québécois, ouais.
Non, c'est ça. Donc, ça a toujours été un peu comme ça. Ce qui fait que moi, d'une certaine façon, tu sais, quand même, c'est mon 9e film, donc j'en ai fait. J'avais vécu ces espèces de petites tristesses-là, plus au début, là, quand je faisais Nuit de Noces, quand je faisais Mambo Italiano, mes premiers films, où là, t'es des jeunes, t'as plein d'espoir, puis là, j'ai été plus confronté à ce moment-là, puis je le prenais plus difficilement, parce qu'il y a quand même un certain mépris qui existe de ce genre-là. Mais je dois t'avouer, avec le temps, puis avec, tu sais, maintenant, on dirait que je m'en occupe pas tant que ça, puis ça fait partie des choses, puis c'est pas grave, ça change pas du tout la carrière du film, ça change pas du tout, moi, les possibilités d'en faire d'autres. Moi, ce que je trouve toujours dommage, c'est les créateurs avec qui je travaille, tu sais, les gens qui font le montage, la musique, la direction artistique, la photo. Je trouve que souvent, malheureusement, ils font un travail qui est aussi bon, sinon meilleur que beaucoup de films en nomination, mais c'est comme si eux, par la bande, la comédie avait diminué la qualité de leur travail, alors qu'il y a des, tu sais,
ils moi, en payent le prix.
La construction. Oui, d'une certaine façon, eux aussi, même si des fois la construction sonore peut être tellement sophistiquée sur mes films parce que je travaille avec des gens qui sont hyper doués, là. Mais c'est ça qui me fait un peu plus de peine. En même temps, ces gens-là aussi travaillent beaucoup. Puis, tu sais, il faut pas. Puis ceux qui gagnent les prix sont en nomination, ben c'est super pour eux. Tu sais, Donc, faut un peu se détacher de tout ça. Puis ça
mais c'est-à-dire que c'est quelque chose aussi qui vient avec les années, comme tu le disais, quand t'as fait Mambo,
oui,
quand t'as fait Mambo Italiano, quand t'étais au début de ta carrière, peut-être qu'en effet, ta volonté ou ton désir d'être reconnu, entre guillemets, par un certain milieu était peut-être plus ardent. Puis à un moment donné, tu te rends compte aussi que, bon, il y a le milieu et puis il y a, 6 millions de... pas 6 millions, mais 600 000. Voilà.
Aussi, quand tu fais la comédie, c'est ça que des fois, j'en parle avec Michel Côté puis des gens qui font la comédie des fois, tu sais. Puis moi, je leur dis toujours, écoute, la comédie est tellement bonne pour nous, tellement bonne, tu sais, Michel, la comédie était bonne pour toi, là, dans ta vie.
Ben oui.
Elle t'a rendu où tu es, puis elle fait en sorte que les gens t'aiment, elle fait en sorte que t'es indépendant de façon financière, tu sais. Donc, il y a des avantages aussi à faire des films populaires, tu sais, c'est pas juste... Moi, je focus pas sur un peu le mépris ou le désintérêt de la part des gens. Mm-hmm. Je me trouve privilégié quand même. Mes films sont financés. Tous mes films, tous les films que j'ai voulu faire, ils ont tous été financés l'année que je voulais les faire. Tu comprends?
Oui, c'est ça. Tu n'as jamais eu de refus ni de la SODEC, ni de téléfilm,
mais
tout ça.
Mettons que j'avais un premier refus, après ça, j'avais un oui, mais ça n'empêchait pas que je tournais au moment où
d'accord.
je voulais tourner. Tu comprends? Donc, je me trouve. Il y a des gens qui attendent 3 ans pour faire un film, ça m'est jamais arrivé. Donc, la comédie et les distributeurs veulent ça aussi. Ils sont friands de ça. Donc, il y a beaucoup d'avantages aussi, si on veut. Là.
Vincent Guzzo t'aime beaucoup.
C'est sûr qu'il n'y a pas. J'ai d'ailleurs eu, pour l'ensemble de mon œuvre, un prix de l'Association des propriétaires de salles du Québec. Parce que justement, quand je sors un film un été, ça fait une différence pour eux. Ça fait une vraie différence dans leur année. Là. Ce film-là, il s'ajoute, tu sais, puis. Donc oui, ça fait qu'il y a des avantages, il y a des petits inconvénients, des petits irritants, mais faut passer outre vite, puis se concentrer sur ce qui nous passionne. Puis je trouve quand même que c'est un privilège de faire un métier comme ça qui me passionne. À tous les matins, je me lève, puis j'ai hâte, tu sais, de replonger dans des histoires que j'invente. Donc c'est vraiment, puis je suis quand même bien payé pour faire ça, tu sais. Donc c'est positif.
Bon, ben écoute, je suis très contente. Tu pourras dire, donc, comme le dit la bonne vieille expression anglaise, « laughing all the way to the bank », il y en a peut-être qui méprisent ce genre-là, mais toi, pendant ce temps-là, tu continues ta carrière. Donc, parlons de cette version française. À quel point l'ont-ils adapté? Parce que, bon, toi, t'es quelqu'un qui connaît profondément la société québécoise, le personnage de Louis-José Houde, avec son frère, dont il dit que c'est son frère jumeau, là, Antoine Bertrand, bref, mais il y a plein de références très québéco-québécoises. Est-ce que t'as eu un droit de regard sur l'adaptation française?
Mais moi, dès le départ, même avant, quand on discutait déjà avec les gens de Gaumont, avant qu'ils choisissent un réalisateur, avant qu'on conclue cette entente-là avec eux, j'ai tout de suite dit que je leur donnais carte blanche, que ça m'intéressait pas d'être impliqué du tout dans le processus, parce que je viens tout juste de faire ce film-là. J'ai aucun recul. Donc, je suis vraiment pas la bonne personne, tu sais, pour leur donner des conseils. Puis, et aussi, je suis conscient que pour que la version française de cette histoire-là soit réussie, il faut que le réalisateur se l'approprie entièrement, puis il trouve dans cette histoire qu'est-ce qui résonne chez lui. C'est quoi? Qu'est-ce qui résonne chez lui? Et comment cette histoire-là peut être un peu transformée pour qu'il la sente profondément? Parce que sinon, tu sais, il pourrait faire de la peinture à numéro, tu sais, ça pourrait être quelque chose d'un peu mécanique, tout ça. Alors qu'il faut que
ça sera pas bon.
Pour que ça marche, une histoire d'un film, il faut que ça soit tellement que chaque seconde soit sentie par le réalisateur ou la réalisatrice.
Ouais.
Donc, pour moi, ils m'ont envoyé le scénario, puis je leur ai dit, regardez, je le lirai pas parce que c'est inutile.
Hein?
C'est pas utile,
l'as même pas lu. Donc tu vas le voir quand le film sera fini, puis tu riras ou tu riras pas. Est-ce que par contre,
il a fait confiance, ce gars-là, il a fait les tuches, il a fait, tu sais, c'est un gars qui a fait la comédie toute sa vie, c'est un acteur.
Les tuches, c'est super drôle.
Donc oui, c'est ça. Donc c'est vrai, le casting était vraiment parfait dans les tuches, les gens jouaient vrai. Donc moi, quand il m'a dit que c'était lui, j'ai dit ben écoute, bravo, puis allez-y, puis c'est important qu'il fasse sa version de menteur. Donc puis moi, même si j'ai le scénario là. Je veux juste voir qu'est-ce qu'ils ont changé. Je verrai pas leur scénario, tu comprends? Donc, c'est pas un bon regard que je vais porter, là, sur ça. Je vais comme être pris dans des espèces de considérations. Ah, mais ça, puis ils n'ont pas pris ça, tu sais. C'est pas utile. C'est vraiment pas utile.
Ouais. Est-ce que on peut présumer, par contre, que le personnage de Louis-José Houde va commencer toutes ses phrases en disant « du coup »
je sais pas, je passerais pas. Comme nous, on dirait, je disais pas ça que, dans le film constamment, donc je suis pas sûr qu'il va dire du coup, parce que nous, on dit, fait que c'est notre du coup à nous. Alors, je penserais pas, mais il va sûrement avoir quelques du coup dans le film, ça c'est certain.
Alors, qui va jouer le rôle de Louis-José Houn?
Écoute, c'est une bonne idée. Moi, j'ai aucune mémoire, Sophie. Il faut que tu saches ça. Oh. Je souffre d'orthodyslexie. Donc, j'ai aucune mémoire. Donc, j'ai lu tous les acteurs. Je suis allé voir sur le web qui étaient ces acteurs-là. Puis, je trouvais que c'était un super casting. Mais je n'ai pas de mémoire. Donc, je me rappelle pas de ces noms-là. Donc, je peux pas t'aider en ce moment. Je suis un peu embarrassé parce que j'aurais dû ouvrir mon ordinateur et puis avoir le casting sous mes yeux. Mais c'est un jeune acteur.
Alors, il y a Tarek Boudali. Il y a Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Karim, Belkadra, Claire Nadeau, Florence Muller, Louise Coldefy et Bertrand Huskla. Je connais que Huskla, mais il est super drôle. D'ailleurs, il y a eu un texte sur lui récemment dans un magazine français, puis c'était Huskla de rire. Je trouvais que c'était un bon jeu de mots, mais sinon les autres, je les connais pas. Donc confiance.
Le acteur principal joue dans une troupe qui font des longs métrages, dont un film qui s'appelle Babysitting, qui a fait plus de 5 millions d'entrées en France. Donc cette troupe-là, elle est très connue. C'est comme, je te dirais, ceux-là sont dans les 2-3 gangs qui font des gros succès au box-office en France. Et lui, l'acteur qui joue le rôle principal, a déjà réalisé un film, a écrit une série télé dans laquelle il joue le rôle principal. Donc, c'est vraiment pas des inconnus, mais nous, on les connaît pas ici. Mais quand je regardais de qui ils étaient, je trouvais qu'il y avait des bonnes correspondances avec les personnages qu'on avait inventés. Éric Victor, William et Sébastien Ravary et moi.
Oui, c'est ça qui avait coécrit donc le scénario, après une idée originale de toi, Émile. Merci beaucoup. Et puis, écoute, du coup, on a vraiment hâte de voir le film quand il va sortir.
Fait qu'on se souhaite une bonne journée, Sophie.
Très bon, très bon. T'as le sens des répliques. Merci beaucoup, Émile Gaudreau. C'était un plaisir de te parler.
Bye-bye.
Réalisateur et scénariste. Donc, son film Menteur, qui avait été un immense succès à l'été 2019, il va être adapté en France. Le premier tour de Manivelle, c'est comme ça qu'on dit, la première journée de tournage, c'était lundi, donc avant-hier. Vraiment une super belle nouvelle pour le cinéma québécois et pour les comédies en particulier. Alors, c'est comme ça que l'émission prend fin. Merci beaucoup d'avoir été là, comme tous les jours de la semaine. Je remercie Jean-François Roy à la mise en onde, William Boivin à la recherche, et surtout, je vous dis passez une excellente soirée, puis on se retrouve demain.
Cube Radio.